Avec l'essor de l'outil numérique, les sciences participatives ou citoyennes ont pris leur envol. La donnée, et surtout les données, transitent de l'observateur au scientifique et du scientifique aux observateurs dans l'idée d'une amélioration mutuelle des connaissances et d'un enrichissement personnel dans l'intérêt de tous. Et oui, ça va dans les deux sens. L'observateur se forme pour collecter et partager ses observations que le scientifique va explorer et restituer pour mieux comprendre notre connaissance du vivant, de notre environnement et de son état.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa, bonjour à tous.
Jérôme Garcia, chargé de conservation au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, qui anime chaque mois sur CFM Quilus l'émission Urbaflore. Aujourd'hui, on parle donc science participative. Ça sert à quoi? Ça s'adresse à qui? Qu'est-ce que ça implique? Avec quelles limites? On donnera quelques exemples de ce qui est possible d'appliquer et on placera ce contexte dans le cadre d'Urbaflore. Alors, on commence comme d'habitude cette émission par une définition. Qu'est-ce que c'est que les sciences participatives?
Alors, sciences participatives, les sciences, c'est un domaine donc de la recherche, c'est de la production de connaissances scientifiques. Et participative ou citoyenne, c'est le fait de faire intervenir des citoyens, hein, des amateurs ou des spécialistes, qui ne sont pas des chercheurs professionnels, dans l'idée de accumuler, améliorer la connaissance. Et ça fait partie des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité, qui est issue de la COP15, qui à l'objectif 2030 prévoit de renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes. Voilà, c'est un engagement de la France pour lutter contre l'érosion de la biodiversité.
Le tout avec plein de petits guillemets. Ça sert à quoi?
Alors, les sciences participatives, ça sert déjà à se poser des questions, à formuler des hypothèses et pour l'observateur, le citoyen, celui qui participe, à développer son esprit critique. Ça lui permet aussi d'être sensibilisé. De sensibiliser aussi son réseau et de l'impliquer en fait sur des thématiques liées à l'environnement. Ça permet aussi de donner un fil conducteur, un cadre d'intervention, un leitmotiv aussi pour les participants qui pourraient très bien faire des inventaires dans leur coin. Là au moins ça leur permet de participer à quelque chose de plus grand. Ça contribue également à un programme de recherche scientifique, hein, il y en a beaucoup. Ça lui permet aussi de se mettre dans la peau du scientifique, mais ça permet aussi aux scientifiques d'apprendre à vulgariser et à partager sa façon de travailler. Cette acquisition de données permet donc la production de connaissances scientifiques au profit de la sauvegarde de la biodiversité dans la plupart des cas. Et puis un élément important, c'est qu'un scientifique seul qui doit étudier des papillons ou des plantes, le fait de faire appel à beaucoup d'observateurs, ça lui permet de démultiplier les observations sur le terrain, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il était tout seul.
À qui s'adressent les sciences participatives?
Bon, je pense que tout le monde l'a compris, mais donc les sciences participatives, ça s'adresse donc à tous les citoyens, qu'ils soient novices, initiés, experts, même des élèves ou des enseignants qui s'intéressent à leur environnement et qui souhaitent s'impliquer dans une démarche scientifique, globale, de façon volontaire et ludique.
Une démarche scientifique, qu'est-ce que ça implique?
Alors, pour les sciences participatives, il faut donc des observateurs. Il faut qu'il y en ait un minimum pour avoir des observations suffisantes, pour pouvoir être traitées ensuite par les scientifiques. L'observateur, il doit s'appuyer sur un protocole. Ce protocole ou cette méthode, elle doit être définie, encadrée et rigoureuse, organisée en général par la sphère scientifique ou par les personnes qui mettent en place ces outils de sciences participatives. Ça doit être simple et accessible, en tout cas pour le plus grand nombre. Donc, adapté aux citoyens, selon ses ambitions, selon que ce soit un élève ou un enseignant, par exemple. Ça implique aussi d'être sensibilisé et d'être accompagné. Donc, la plupart des sites de sciences participatives, hein, on va trouver ça sur Internet, proposent pour se former, par exemple, des webinaires ou des petits quiz, des petits tests qui leur permettent de renforcer leurs connaissances dans tel ou tel domaine. pour faire des sciences participatives, il faut observer donc un minimum, avoir du temps, une certaine disponibilité et une certaine rigueur également. Ça demande aussi avoir un minimum de matériel de base, hein, le carnet, le crayon pour prendre des notes par exemple. Aujourd'hui on utilise de plus en plus aussi les téléphones mobiles, les smartphones sur lesquels on va télécharger des applications et on a juste à suivre un peu le mode opératoire que fixe l'application. Et puis ça peut être aussi le fait de prendre des photos qui va permettre de contribuer à ces sciences participatives. Ce qui est attendu en général, hein, dans la globalité, c'est de pouvoir par exemple dénombrer, compter des effectifs dans l'espace ou dans le temps, c'est le nombre de papillons qui va se poser sur la même fleur par exemple, prendre des photos, de pouvoir faire des listes d'espèces, je sais pas, on va se déplacer dans son jardin et on va essayer de voir en fonction d'un guide ou d'outils de détermination quelles sont les plantes ou quelles sont les araignées ou quels sont les papillons ou les pollinisateurs qu'on va trouver dans son jardin. Donc on va tresser une liste, et jour après jour, voilà, par exemple sur une semaine, on va avoir un peu tout ce qu'on a dans son jardin. Ça va être de les localiser aussi, ces données, c'est important de pouvoir les localiser pour ensuite centraliser ça et avoir un aperçu, par exemple, je sais pas, d'une abeille solitaire, une osmie particulière, ça va permettre de dire qu'elle est plutôt dans le sud ou dans le nord de la France, par exemple. L'important aussi, c'est de pouvoir le répéter, peut-être dans le temps. On va voir qu'il y a, par exemple, pour certaines plantes, des floraisons plus ou moins décalées, parce que chaque année, ça sera répété, et dans le, au cours de l'année, au cours des mois, on va pouvoir aussi voir comment l'espèce, quelle est l'évolution de la phénologie, qu'on va passer de la floraison à la fructification, à la dissémination de graines. Voilà, et puis il faudra noter aussi donc la date, le lieu, l'observateur qui est à l'origine de ces données.
Quelles limites ?
Alors oui, ça c'est un point important et intéressant. Les sciences participatives, ça fait appel à un minimum de connaissances de la part du citoyen qui aura été formé, plus ou moins formé. Mais ça reste des données qui ne suivent pas un protocole forcément scientifique et parfois complexe, parfois épuisant aussi, parce que c'est des conditions qui ne sont pas toujours évidentes, soit d'accessibilité à des sites, soit de répétitivité. On peut vite se lasser de faire systématiquement le même protocole pendant une journée sur tout un tas de cadres, par exemple. Donc parmi les limites, il faut qu'il y ait déjà suffisamment de participants pour que les données soient exploitables. Il arrive qu'on peut avoir des déséquilibres géographiques parce que peut-être qu'il y a des observateurs qui sont plus présents et qui veulent pas ou qui ne peuvent pas se déplacer plus loin que tant de kilomètres autour de chez eux. Et donc on peut avoir une pression d'observation plus importante à certains endroits et moins à d'autres. Hein. Donc on peut avoir de la sur- ou de la sous-représentativité de ce qu'on observe. Et puis on peut avoir aussi de la sur- ou de la sous-estimation aussi des données d'observation. Les limites aussi, c'est tout ce qui est lié à la fiabilité, à la confusion, à la qualité de la donnée. Hein. On peut avoir un problème d'exactitude de l'information qui fait qu'il faudra le prendre en compte quand on va traiter la donnée, quand les scientifiques vont récupérer ces informations, vont traiter la donnée. On peut également avoir des difficultés à déterminer certaines espèces qui sont complexes. Je pense à certaines graminées, en tout cas pour la flore, ou certains papillons qui peuvent se ressembler. On peut faire des confusions dans certains groupes, en tout cas de plantes ou d'animaux. Et puis on a aussi des espèces qui sont des fois très très localisées ou très rares. Et donc les sciences participatives donnant plutôt des formations à des éléments généraux. Hein, ça va être des espèces qui sont plutôt, on va appeler ça des espèces banales ou communes. Dès qu'on va tomber sur des espèces un peu particulières, il y a un risque aussi de ne pas savoir la déterminer ou de passer à côté finalement d'enjeux forts, parce que c'est pas une espèce qui est très commune. Et puis par rapport à ces limites, ça nécessite aussi toute une organisation sous la forme d'une plateforme d'outils en ligne, d'interface qui soit à la fois pratique et intuitive pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on saisit et où on saisit. Et ensuite, tout ça, il faut aussi pouvoir avoir des gens qui coordonnent, qui animent ces sciences participatives de façon à avoir une donnée qui vient régulièrement, avoir des bénévoles ou des observateurs qui soient actifs et actifs et motivés et qui comprennent le sens de leur engagement, quoi. Voilà. Et puis, parmi les limites, faut savoir que ça peut prendre plus ou moins de temps selon ce sur quoi on s'engage et qu'il faut être aussi parfois disponible.
On parle science participative dans cette émission Urbaflore. On va donner quelques exemples d'applications dans le secteur botanique. Oui, parce que c'est de ça qu'on parle avec cette émission Urbaflore, l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Mais ce sera juste après la musique. Ton choix, Jérôme ?
Ouais, effectivement. On va se faire une petite pause musicale. Juste, je voulais revenir sur le fait que c'est vrai que c'est une émission un peu particulière. Je parle pas forcément de bota. Mais après la pause musicale, il y aura quand même un petit rapprochement, comme tu l'as dit, Lisa, avec le programme Urbaflore du Conservatoire Botanique. Et pour la pause musicale, je propose Mark Ronson et Bruno Mars avec Uptown Funk.
This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name. Hit you, hallelujah.
Ooh.
Girls hit you, hallelujah.
Ooh.
Girls hit you, hallelujah.
Ooh.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown it.
Well, it's Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me.
Vous êtes bien dans l'émission Urbaflore, l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. On parle, après cette pause musicale, d'Urbaflore en tant que science participative. On venait de définir un peu ce qu'étaient les sciences participatives, à quoi ça servait, à qui ça s'adressait, qu'est-ce que ça impliquait et ses limites. On va maintenant aborder quelques exemples de sciences participatives et faire un focus sur le programme Urbaflore en particulier. Donc, parmi les exemples de sciences participatives que certains de nos concitoyens connaissent ou vont découvrir, on a l'Observatoire participatif des espèces et de la nature qui s'appelle Open. C'est un observatoire qui regroupe un certain nombre de plateformes ou de programmes de sciences participatives. Ça correspond à environ 200 observatoires en France et ça regroupe plus de 75 000 participants. Je vous invite à taper Open Sciences Participatives sur Internet et vous verrez, il y a toute une liste de programmes qui rentrent dans les sciences participatives et peut-être qu'il y en aura une qui vous intéressera pour contribuer à l'amélioration de la connaissance et de notre environnement. Il y a notamment le site Viginature qui regroupe le SPIPOL. SPIPOL, c'est le suivi des insectes pollinisateurs en prenant des photos, tout simplement dans votre jardin ou dans un environnement que vous aurez choisi. Vous avez également la science participative qui s'appelle Opération Papillon, le programme également STOCK, qui signifie suivi temporel des oiseaux communs. C'est un des plus vieux programmes de sciences participatives qui a permis de mettre en place un certain nombre d'indicateurs de l'évolution des populations d'oiseaux. Vous avez le programme Bird Lab, ça consiste à observer les oiseaux quand on a installé des mangeoires. Le programme Vigiflore, sauvage de Marue, qui consiste à faire des relevés de plantes qu'on va trouver en milieu urbain, par exemple. Il y a également l'application Naturaliste, l'Observatoire des saisons, etc., etc. Donc ça, c'est une petite liste de programmes de sciences participatives. Et moi, il y en a un en particulier que beaucoup de naturalistes et de personnes qui s'intéressent à la flore connaissent, qui s'appelle PlanteNet. Donc c'est une plateforme de sciences citoyennes qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle et qui va permettre de faciliter l'identification et l'inventaire des plantes. Donc c'est un des plus grands observatoires de la biodiversité au monde, hein, avec plusieurs millions de contributeurs dans plus de 200 pays. Alors c'est une application intéressante, là encore, comme j'expliquais précédemment, dès qu'on va tomber sur des espèces un peu particulières ou un peu rares, qui ne sont pas forcément souvent vues par la communauté, on peut passer à côté d'une identification valable. Donc être vigilant sur ces éléments-là, mais en tout cas ça donne des bonnes informations. Pour ma part, quand j'ai un doute ou quand j'ai un bug ou que je me souviens plus d'une espèce ou quand je la connais pas carrément, c'est vrai que j'utilise cette application-là à partir des feuilles, des fruits ou des fleurs. Vous avez pas mal de chances, il y a un pourcentage qui est indiqué à chaque fois, de tomber sur la bonne espèce. Voilà, donc c'est une application qui est quand même très intéressante quand on débute ou même quand on est un peu plus expert dans la question. Voilà, et puis pour Urbaflore.
Exactement.
Pour Urbaflore, effectivement, là j'ai donné des généralités de qu'est-ce que les sciences participatives, mais Urbaflore, en fait, au tout début du programme, moi, j'avoue que l'approche était plutôt scientifique, plutôt tournée vers de la veille et de la vigilance sur des populations qui étaient menacées par les activités humaines. Et un jour, quelqu'un m'a fait la réflexion en me disant « Ah, mais c'est super, c'est de la science participative !» Et j'avais pas tilté. Et puis, plus je me suis posé la question, et plus je me suis dit « Mais ouais, carrément !» Après, c'est de la science participative qui n'est pas ouverte à tous les citoyens. Ça, c'est une des petites différences. C'est ouverte, c'est de la science participative qui est ouverte à des naturalistes déjà participant à des actions au sein d'associations. On s'est avec Urbaflore, en fait, on s'est appuyé sur un réseau de bénévoles. Hein, c'est un réseau qui est quand même exceptionnel et riche dans l'ex-région Midi-Pyrénées. On a une association naturaliste par département. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, cette base, ce socle d'observateurs et de bénévoles qui peuvent nous faire remonter des informations. On avait déjà travaillé avec un certain nombre d'associations pour des programmes liés, par exemple, aux plantes des moissons, hein, les plantes messicoles. Et là, du coup, de mobiliser ce réseau de bénévoles associatifs, ça a été une grande force, c'est même la grande force, à mon sens, du programme Urbaflore. Alors, je les ai déjà cités à l'occasion d'autres émissions, mais c'est vrai que dans le Tarn-et-Garonne, il y a la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne. Dans le Gers, il y a l'Association botanique gersoise et l'ADASEA du Gers. Sur toute Occitanie, avec une forte présence en Haute-Garonne, aux abords de Toulouse, il y a Nature en Occitanie. Il y a en Ariège, la Nacène de l'Ariège. Il y a l'Hôte Nature, il y a la Société Tarnaise de sciences naturelles. Il y a Nature en Occitanie aussi en Haute-Pyrénées. J'espère n'avoir oublié personne et je m'en excuse d'avance s'ils ne sont pas retrouvés. Mais en tout cas, voilà. On a aussi quelques personnes plutôt indépendantes. Je pense à la Société française d'orchidophilie, plus d'autres privés qui se sont investis dans le programme Urbaflore. Et j'en profite pour les remercier tous, d'ailleurs. Voilà, ça a nécessité pour Urbaflore également, on en a parlé précédemment, de protocoles, de méthodes, d'un outil. Dans le cadre de ce programme, on a créé une interface de consultation et de saisie sur lesquelles les bénévoles peuvent avoir accès donc, aux populations, aux espèces qu'il est important de surveiller pour faire remonter d'éventuelles menaces. Et sur lesquels ils peuvent saisir un certain nombre d'informations, hein, des effectifs, des occupations dans l'espace, des informations justement sur des possibles dégradations ou des destructions avérées. Voilà, c'est tout le sens de ce programme qui est possible grâce à ces bénévoles, je le répète. Et puis ça passe également, comme dans les sciences participatives finalement, par de la formation et puis des restitutions de données. Et c'est notamment un des objectifs du stage que vous a présenté Violette lors de la précédente émission, qui permettait de faire une synthèse sur des observations faites par les bénévoles et notamment sur des observations de populations en déclin ou en régression, voilà, pour pouvoir agir derrière.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin, ok. Le mot de la fin, c'est une citation de Léonard de Vinci. Toute connaissance commence par les sentiments. Effectivement, sans sensibilité, sans envie, il n'y a pas de connaissance et il n'y a pas de respect.
On parlait science participative dans cette émission Urbaflore du mois de juillet. Cette émission est chaque mois animée par Jérôme Garcia, chargé de conservation au CBN, le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et cette émission est, comme toutes les autres, à réécouter en podcast sur le site de cfmradio.fr. Jérôme, on se retrouve pas en août, parce que c'est
les
vacances.
Non, c'est la pause estivale.
Mais en septembre, bon été.
Merci Lisa, et bon été à tous. Au revoir.